Chapitre 5. Les jeunes garçons du patronage avaient tout l'après-midi couru et joué dans la forêt. À 6 heures, un peu las, ils revenaient vers la ville sous la surveillance de Bruno et de 2 autres jeunes gens. La lumière sans éclat du jour finissant se répandait sur les coteaux où la vigne se pressait, couvrant les pentes d'une parure verte qui s'avivait sous le bleu léger du ciel. Les hautes cheminées, les toits imposants du château de Varlaumont, une belle demeure du temps de Louis XIII bâtie à flanc de coteau, les cimes des arbres centenaires de son parc bondissaient dans cette clarté douce. Plus bas, la hermelière se devinait entre les saules bordant la rivière, les saules clairs qui frissonnaient un peu en recevant la caresse des derniers rayons. Bruno aimait ces fins de jour. Leur luminosité reposante pénétrait de calme sa nature trop sensible. En marchant derrière les enfants qui s'éparpillaient le long de la route, il se complaisait à la vue de ce paysage simple et charmant, vrai paysage de France, d'une grâce claire et fine. Il chérissait son vieux pays d'Anjou, et il voulait que le second ouvrage dû à sa plume fût consacré à en célébrer quelques-unes des beautés et des gloires. « Vous rêvez, Ferrière ?» lui dit en riant un de ses compagnons. « Un peu, en effet. Voyez donc au mieux comme cette lumière près de disparaître donne du charme aux moindres choses. Cette masure, là, sous un ciel gris, elle est sordide. Sous le soleil de midi, elle semble un misérable débris calciné. En ce moment, au contraire, elle prend un attrait de mystère et les digitales qui rougissent les crevasses de ses murs ont une nuance plus fraîche, des corolles plus vivantes ce soir. Vous oubliez, mon cher, que je ne suis pas poète. C'est vrai, moi je le suis peut-être un peu trop. » À droite, un chemin se montrait, s'enfonçant dans l'ombre semée de lumière d'une allée de très vieux châtaigniers. Bruno demanda « Puis-je vous laisser ici? Je voudrais aller jusqu'au prieuré. » « Mais certainement, nous suffirons bien à ramener nos gamins à bon port. » Bruno serra la main des 2 jeunes gens, jeta un bonsoir amical aux enfants et s'engagea dans le chemin. Celui-ci montait légèrement. Bruno déboucha dans un bois de châtaigniers clairsemés. Puis, au-delà, il se trouva devant les ruines du prieuré de Saint-Jean. Des pans de mur, l'abside de l'église, un côté du cloître, voilà tout ce qui subsistait de la vieille maison bénédictine. Une végétation touffue se pressait dans les espaces déserts et traînait les pierres mutilées que la lumière du couchant enveloppait. L'ombre s'étendait sur le cloître, gagnait le mur roux qui avait jadis enserré le réfectoire des moines. De grandes crevasses s'y montraient que les longues traînes des plantes parasites ne parvenaient pas à cacher. Bientôt, sous les attaques de la pluie, du vent, sous la morsure du soleil, il s'écroulerait comme les autres, le vieux mur témoin des agapes religieuses. Et elle tomberait aussi, l'abside à la délicate rose de pierre, enveloppée dans son manteau de lierre où nichaient les corneilles. Il ne resterait plus que le souvenir, bientôt évanoui sans doute, des fils de Saint-Benoît chassés par la Révolution. Bruno venait souvent ici, surtout à cette heure tardive où l'apaisante clarté de la fin du jour répandait sur les vieilles pierres un charme mélancolique. Il se plaisait au retour méditatif vers le passé, il songeait aux âmes qui avaient vécu ici, âmes de saints, âmes ferventes, âmes repentantes, âmes tièdes ou tourmentées. Des fronts de savants et de penseurs s'étaient penchés sur les manuscrits, des intelligences profondes avaient enrichi le patrimoine intellectuel de l'humanité. Les noms de ces hommes restaient pour la plupart inconnus. Ils s'étaient perdus dans le même anonymat glorieux dont s'enveloppaient humblement les artisans de génie qui conçurent nos cathédrales et les artistes ignorés qui, au fond des cloîtres, exécutèrent les enluminures des livres d'heures, dont quelques spécimens admirables sont parvenus jusqu'à nous. Bruno ne trouvait jamais personne dans les ruines. Ceux qui subsistaient des bâtiments, autrefois si vastes, étaient trop peu de choses pour tenter la curiosité des touristes. Quant aux habitants de Sargée, ils n'appréciaient guère ce lieu d'aspect un peu triste et le déclaraient dangereux à cause des pierres qui se détachaient de temps à autre pour aller rejoindre celles dont le sol était déjà encombré. Aussi, Bruno eut-il un léger mouvement de surprise et de contrariété en voyant qu'aujourd'hui, les ruines avaient une visiteuse. Elle s'était assise sur un bloc de pierre et dessinait. Sa tête se redressa en entendant le pas de Bruno. Celui-ci reconnut alors Floriane Jarlier. « Ah, monsieur Ferrière !» La voix avait une intonation de plaisir. Floriane se leva et fit quelques pas vers Bruno qui se découvrait. « Vous venez jouir de cette adorable poésie des vieilles pierres que le soleil auréole et semble revivifier ?» Elle lui tendait la main. Il rencontra ses yeux souriants qui resplendissaient à la lumière du soir. « Je venais rêver un peu, je l'avoue. « Comme je comprends cela, mais vous devez être très mécontent de me trouver là. Je vais partir tout de suite pour ne pas gêner votre méditation poétique. » « Mademoiselle, vous plaisantez, c'est vous qui allez me chasser en me disant cela, car pour rien au monde je ne voudrais vous déranger. Vous dessinez ?» Elle éleva sa main gauche qui tenait un album. « Tenez, êtes-vous connaisseur? Saurez-vous me dire si cela est passable ?» Elle approcha l'album des yeux de Bruno. Il vit un dessin fait de traits légers qui rendait tout le charme mélancolique du vieux cloître ruiné. Très sincèrement, il déclara « Comme c'est cela, vous avez un réel talent, mademoiselle. Savez-vous à qui je pensais quand vous êtes apparue? Je cherchais à me représenter ce cloître tel qu'il fut avant sa dévastation. Nous avons la reproduction d'une vieille estampe qui le montre en cet état. Si cela peut vous être agréable, je vous la ferai voir. Certes oui, apportez-la-moi un de ces jours. Vous me trouverez toujours au début de l'après-midi. Je sors peu d'ailleurs. Quand vous disposerez de quelques instants, venez donc faire de la musique avec moi. Mon violon demande un accompagnateur. Je suis un pianiste très imparfait, mademoiselle. Je n'en crois rien. Vous devez être artiste en tout. Venez donc m'en faire juger bientôt. » Le soleil la gênait. Elle recula un peu vers les arcades du cloître. La lumière, maintenant, n'éclairait que sa robe mauve, la même qu'elle portait pour sa première visite chez Madame Ferrière. La tête restait dans l'ombre. Contre la colonne noircie qui supportait un chapiteau délicatement ouvragé, son visage apparaissait d'une blancheur palpitante. Ses cheveux, car son chapeau gisait plus loin sur l'herbe haute, avaient des teintes de blé brûlé. Les yeux brillaient doucement à l'ombre des cils légers. « Si vous me racontiez l'histoire des hommes qui vécurent ici, monsieur, je suis certaine que vous en connaissez tous les détails. » Oui, Bruno n'ignorait rien de la chronique du prieuré de Saint-Jean. Il en refit l'historique à Floriane, en érudit et en poète. Il dit les vertus des religieux, leurs pénitences, leurs travaux et l'empreinte dont ils avaient marqué la France d'autrefois. Il parlait avec enthousiasme, avec une ardeur que soulevait l'attention profonde des yeux fixés sur lui. Il se disait « Si je pouvais lui faire comprendre la beauté de la religion !» Et il décrivait les cérémonies liturgiques qui s'étaient célébrées ici, il évoquait les ombres des moines disparus, il exaltait la pérennité de cette croyance, aujourd'hui encore combattue comme au premier siècle de l'Église. La lumière pâlissait de plus en plus. Maintenant, l'ombre couvrait tout le vieux mur roux et s'étendait sur les arbrisseaux échevelés qui envahissaient l'ancien préau des moines. Floriane appuyait au pilier son corps souple qui pliait comme une tige. Le crêpe de sa robe, sous la caresse du soleil déclinant, avait des tons de fleurs. La vie palpitait sur son visage, sur ses lèvres, dans ses yeux. Et Bruno sentait s'insinuer en lui comme une vague ivresse qui l'étourdissait. « J'aime vous entendre !» dit la voix basse et doucement ardente. « Vous me faites du bien !» Elle s'interrompit. Une ombre de mélancolie vint voiler le rayonnement du regard, rendant celui-ci plus attirant encore. « Je ne suis pas accoutumée à ce qu'on m'entretienne de pareils sujets. Dans le monde, on m'entoure beaucoup, mais tous ces jeunes gens sont tellement insignifiants ou si hardis. Rien de sérieux, rien qui élève le cœur. Vous, au contraire, vous me dévoilez des horizons magnifiques et vous êtes une âme. » Bruno eut un frémissement d'émotion heureuse. Quoi, mademoiselle, aurais-je vraiment le bonheur de vous avoir touchée ? Elle répéta pensivement : Vous me faites du bien. La lumière devenait rose comme une aurore. Elle étendait sur les murs, sur les piliers du cloître, sur les arbrisseaux, de grandes taches claires où se jouait l'ombre vacillante des feuillages. Le ciel avait une teinte de lavande pâlie. Sur ce fond pur, la rose de l'abside s'enlevait nettement, se dessinait comme un joyau superbe, ouvré avec un art patient. Des oiseaux pépillaient sous l'ombre des noisetiers et les corneilles, sortant de leur retraite, se poursuivaient avec des cris perçants. Floriane dit à mi-voix, du même ton pensif, « J'aurais besoin qu'on me parlât souvent ainsi. » Elle s'interrompit, parut hésiter. Ses yeux s'adoucirent jusqu'à la caresse et prièrent. « Si vous vouliez, quelquefois, nous causerions comme cela. Je souhaite connaître votre foi, et je vous sens très loyal, très fervent aussi. J'ai confiance en vous instinctivement. » Il dit avec élan, « Mademoiselle, je serais trop heureux si je pouvais vous être utile et vous apprendre à apprécier nos croyances. Eh bien alors, venez à la Hermelière toutes les fois que vous le pourrez. Nous ferons de la musique et nous causerons. Puis, ici, par les beaux jours comme celui-ci, je viendrai m'asseoir à cette heure, vous tâcherez de votre côté d'avoir un moment de liberté et nous parlerons de cette religion que vous aimez. Nous serons bien tranquilles dans ce cadre disposé à souhait pour de si graves entretiens. Je ferai tout mon possible et je vous remercie de la confiance que vous m'accordez. Oh, elle m'est bien facile, je vous assure. » Elle eut son éblouissant sourire des yeux. Lentement, elle se redressa en un mouvement de grasse indolence. « Il est temps pour moi de regagner la Hermelière. Et vous, monsieur, rentrez-vous ? » « Oui, car il ne doit pas être très loin de 7 heures. »« En effet, comme je vous ai dérangé !» Il protesta encore chaleureusement. Ses yeux avaient une flamme de jeunesse et de sincérité tandis qu'il parlait. Et Floriane souriait encore en le regardant. « C'est très bon à vous de me dire cela. J'essaierai de ne pas trop vous ennuyer quand vous viendrez à la Hermelière. » Elle fit quelques pas dans l'intention de reprendre son chapeau. Bruno la prévint et le lui apporta. Elle dit gaiement, en le lui prenant des mains, « J'agis ici en campagnarde, comme vous voyez. C'est charmant, cette liberté. » La lumière rose l'enveloppait. Ses cheveux, maintenant, semblaient faits d'or ardent et sa nuque, son cou, éclairé par les derniers rayons, avait la blancheur douce des pétales de lys. Elle leva les bras, lentement, pour se coiffer de la paille légère. Celle-ci projeta son ombre sur le visage souriant. Bruno pensa « Comme ce chapeau lui va bien !» Floriane se pencha pour prendre l'album déposé sur une pierre. Elle dit du même ton gai « Ce dessin sera un souvenir de notre rencontre. J'adore ce vieux cloître. J'y reviendrai souvent. » Elle jeta un long regard autour d'elle. D'un ton bas et ardent, elle murmura « Comme tout est beau ici, comme l'heure est exquise, comme on vit !» Ses lèvres frémirent, une vie passionnée animait son regard, faisait courir un sang plus vif sous l'épiderme palpitant. Toute la clarté du soir l'entourait comme une gloire triomphale. L'éclat troublant des prunelles s'avivait dans l'ombre légère de la paille souple. Bruno eut un frisson d'émoi émerveillé. Il lui sembla qu'un souffle brûlant passait sur lui et qu'une soif inconnue pénétrait dans son cœur. « Oui, tout est beau, » dit-il ardemment, « tout est beau de ce qui est l'œuvre de Dieu. » Elle sourit encore en lui tendant la main. « Poète et croyant, vous êtes parfait, et j'aime les gens parfaits. » Un rire, léger et frais comme un rire d'enfant, s'échappa de ses lèvres. « À bientôt, n'est-ce pas ?» Il répondit en serrant la main moite et douce qui s'attardait dans la sienne. « À bientôt, oui, mademoiselle !» Elle s'éloigna, passant habilement entre les obstacles que formaient partout les pierres tombées, les débris amoncelés, la végétation touffue qui rampait sur le sol. Quand elle eut disparu, Bruno prit à son tour le chemin de Sargé. La lumière mourait lentement, l'horizon pâlissait et, tout au fond, prenait des tons de lilas passé. Le clocher de Sainte-Cécile se découpait avec une grâce aérienne sur ce ciel du soir. Il se dressait comme le symbole de la prière, de l'appel vers Dieu, jeté par les âmes souffrantes ou tentées. L'air fraîchissait, un soupçon de brise apportait la senteur des luzernes et des trèfles, des blés mûrs, des terres chauffées, des bois que le soleil quittait, des petites plantes aromatiques cachées au bord des fossés. Entre ces peupliers, la rivière était rose comme le ciel. « Quelle fin de journée merveilleuse !» songea Bruno. Mais il ne jouissait pas de la beauté environnante avec l'enthousiasme très simple et très servant qui lui était habituel. Il avait l'impression singulière d'une griserie subtile qui changeait un peu à ses yeux l'aspect des choses et qui se dissipait lentement. Il pensait à Floriane, il se disait « Comme elle m'écoutait bien !» Elle sent le vide de son âme et la frivolité de sa vie. Elle cherche la vérité. Il serait doux, il serait beau d'amener cette âme à Dieu. Il se remémorait ses paroles, l'expression de sa physionomie. Était-elle sincère? Oui, il avait vu sur ce visage le grand frisson de l'émotion vraie et dans ses yeux tant de vivants désirs. Il eut un frémissement étrange. Pourquoi? Il ne savait. Tout était calme autour de lui, et en lui, qui avait-il? Seulement l'allégresse du croyant qui entrevoit une âme inclinée vers la vérité et l'appelant. Ce soir-là, au cours du dîner, Bruno dit « J'ai rencontré au prieuré Mademoiselle Floriane Jarlier. Elle m'a demandé d'aller faire de la musique avec elle. » Monsieur Ferrière déclara « Elle joue admirablement. Je l'ai entendue ce matin en sortant de chez son père. » Si tu avais plus de temps, et si la jeune personne était autre, tu pourrais profiter de l'occasion pour faire de bonne musique. Mais ce milieu-là n'est pas pour te plaire. » Madame Ferrière approuva, du regard et d'un mouvement des paupières. Bruno se versa de l'eau, reposa la carafe et dit avec une hésitation légère « Je ne puis faire autrement que d'y aller quelquefois. Je n'avais pas de raison pour refuser. Ce sont des gens honorables. » Louis fit observer « Tu pourrais alléguer tes occupations. Elle sait très bien qu'elle me laisse une certaine liberté. » « C'est vrai. » Claire demanda « Avait-elle son chapeau qui lui va si bien, son grand chapeau noir ?» Bruno fit un signe affirmatif. Il regardait sa mère. Pourquoi ce pli sur son front et cette expression attentive, un peu inquiète, au fond des yeux ?« Je l'adore avec ce chapeau-là » s'exclama Claire. Les yeux couleur de noisette devinrent un peu sévères en se fixant sur la jeune fille. « Je t'engage, Claire, à ne pas adopter ces expressions exagérées. On adore ou on a en horreur. Il n'y a pas de milieu. C'est ridicule et tout à fait disproportionné. » Louis dit, avec un sourire malicieux qui plissa son maigre visage, « Mademoiselle Jarlier parle comme cela. » Madame Ferrière riposta d'un ton de fermeté tranquille « Je ne permettrai jamais à Claire de se modeler sur ce genre de jeune fille. » Bruno, pendant la fin du repas, ne parla plus que par monosyllabes lorsqu'on s'adressait à lui. Il se sentait nerveux, mécontent, il trouvait sa mère sévère dans ses appréciations sur des jeunes personnes si peu connues d'elle encore. Ses jugements hâtifs n'étaient pas dans ses habitudes. Pourquoi ne pas penser que, sous les allures trop libres dues à leur éducation, se cachaient des vertus qui ne demandaient qu'à s'épanouir, pour peu que la lumière les touchât? Après le dîner, Bruno ne s'attarda pas dans le jardin. Son travail l'attendait, après tout cet après-midi passé au dehors. Il vint, comme de coutume, offrir son front aux lèvres maternelles. Le baiser se fit plus long, plus tendre ce soir. Bruno, à ce contact, sentit s'évanouir toute sa contrariété. Mais il ne s'aperçut pas de l'angoisse qui traversait le regard de Madame Ferrière. Pour la première fois, la mère venait de voir, dans les yeux de son fils, l'ombre toujours guettée.